quieren, tontos.
Le vendredi, le métal fait son show sur Mike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, votre émission qui chaque semaine vous propose un petit tour d'horizon des sorties métal du moment. Et ce 23 octobre, eh bien, est riche en sorties, en belles sorties. L'émission va donc prendre des couleurs tantôt heavy, tantôt death, tantôt doom. On aura également du new metal au programme, donc voyez ce qui va vous attendre pour l'heure à suivre. Et on terminera, bien entendu, comme chaque semaine, par la rubrique Sortez Cover. Et puis, cette semaine, on va faire un grand écart entre les années 70 et les années 90. Voilà pour ce qui vous attend. Eh bien, puisque c'est ainsi, commençons tout de suite les hostilités. Et première sortie, donc, pour ce 23 octobre, on va aller du côté de la Californie, à Los Angeles. On va s'intéresser à un groupe né dans les années 80, qui a eu un parcours parfois semé d'obstacles, mais qui a tenu bon et qui est là aujourd'hui pour nous présenter cet album qui s'appelle Punching the Sky. Ce groupe, c'est Armored Saint. Alors, un groupe qui est né en 82, qui a été fondé par des potes de lycée. Hein. À ce moment-là, il est composé de deux frangins, les frères Sandoval. On a Phil à la guitare et Gonzo à la batterie. On a John Bush qui est au chant et qui ensuite va devenir le frontman du groupe de thrash Anthrax. On a Joey Vera à la basse, qui d'ailleurs a fait un petit passage aussi chez Anthrax à la fin des années 90, si je vous dis pas de bêtises. Et puis on a David Pritchard à la seconde guitare, qui va être remplacé par Jeff Duncan en 89. Un line-up qui est d'ailleurs toujours d'actualité, toujours en place à ce jour, malgré cette carrière parfois chaotique. Alors Armored Saint, c'est du heavy metal, j'ai envie de dire traditionnel. On va revenir un petit peu sur ces tumultes, hein, qui ont ébranlé la carrière des Californiens, qui va pourtant démarrer sous les meilleurs auspices, puisque le groupe sort un premier album qui s'appelle March of the Saint en 84, qui va connaître un succès notable grâce au morceau Can You Deliver, qui sort également en clip, et ce clip il va être régulièrement diffusé sur MTV. L'année suivante, en 85, le groupe va enchaîner avec un deuxième album qui s'appelle Delirious Nomad. Alors cet album-là, il va marquer le départ du guitariste Phil Sandoval. Ça va être un premier coup dur pour le combo, qui va donc enregistrer son album suivant en mode quatuor. Cet album, il s'appelle Raising Fear, il sort en 87. Alors ce sera qu'après, hein, que Phil Sandoval va finalement être remplacé par Jeff Duncan. C'est en 1989, durant la composition du quatrième album. Et alors à ce moment-là, nouveau coup dur, c'est Dave Pritchard, l'autre guitariste, qui va tomber gravement malade. Il va d'ailleurs succomber à une leucémie très peu de temps avant que le groupe ne rentre en studio. Donc ça devient très très compliqué. Et pour, entre guillemets, remplacer ce guitariste qui va décéder, le groupe va finalement récupérer Phil Sandoval, donc son guitariste d'origine, pour l'enregistrement de Symbol of Salvation en 91. Alors, cet album, il va connaître un accueil enthousiaste, il va offrir au groupe une tournée relativement importante, et puis ça va aussi leur permettre d'être invités à participer à la BO du film Hellraiser 3, dans lequel, d'ailleurs, le groupe fait une petite apparition. Donc une belle période, mais seulement quelques mois plus tard, il y a John Bush qui va recevoir une offre intéressante puisque ce sera celle de devenir le chanteur du groupe Anthrax. Alors, c'est le genre d'offre qui se refuse pas, hein, et son départ rend l'avenir d'Armored Saint très très incertain. Du coup, ils vont décider de pas continuer, de se séparer. Une histoire qui aurait dû s'arrêter là, mais qui finalement va quand même reprendre en 99. À ce moment-là, John Bush et Joey Vera vont profiter d'une période d'inactivité d'Anthrax pour rappeler leurs camarades d'Armored Saint et pour reformer le groupe le temps d'un album qui s'appelle Revelation, qui paraît en 2000, avant de mettre de nouveau le groupe en sommeil jusqu'en 2008, année où Bush va être remercié par Anthrax. Alors depuis, il y a deux albums qui ont vu le jour. Il y avait eu La Razza en 2010 et puis Win Ends Down en 2015. Et puis, il y en a un troisième qui arrive aujourd'hui qui s'appelle Punching the Sky. Alors, même s'il aura fallu quand même attendre 5 ans avant de le voir arriver, ce 8e album, ça valait le coup parce que le disque, c'est vraiment une belle réussite. Qu'il s'agisse de ces compos qui sont vraiment d'excellentes factures, elles sont à la fois riches, inspirées, soignées, que leur exécution de ces compos, parce que c'est quand même des musiciens chevronnés qui tiennent par ailleurs une excellente forme. J'ai envie de parler notamment de la prestation vocale de Joe Bush, qui est impressionnante tout au long du disque. Le combo a d'ailleurs choisi de faire de nouveau confiance à Jerry Stone pour le mixage de cet opus, et je pense qu'Armored Saint signe avec Punching the Sky l'album de Heavy à côté duquel faudra pas passer cet automne. C'est vraiment du high level. Voici tout de suite un extrait de Punching the Sky. On écoute Armored Saint avec le morceau End of the Attention Span. We'll be right back. C'était Armored Saint à l'instant sur Back FM avec le titre End of the Attention Span. C'est un extrait du nouvel album qui s'appelle Punching the Sky qui est paru aujourd'hui. Donc, huitième album pour le groupe de Los Angeles qui a une grosse carrière derrière lui, qui a été fondé dans les années 80, qui a eu une carrière un peu compliquée mais qui est bien revenu sur le devant de la scène depuis le début des années 2010 et comme beaucoup de groupes de l'époque qui fait maintenant une carrière assez brillante. Alors on lui souhaite un bel avenir. On reste aux États-Unis, on reste du côté de Los Angeles, puisqu'on va aller maintenant s'intéresser à la nouvelle production d'un groupe que je vais prononcer à la française et que je vais prononcer, je vais essayer de prononcer à l'américaine, mais je pense que je vais dire une bêtise. Alors, en français, on va dire que ça s'appelle Fever 333. Après, je me pose la question de savoir si en anglais, on prononce Fever 333 ou Fever 333. Voilà, ça c'est ma question du jour. Donc si vous avez la réponse, dites-nous sur Facebook, hein, ça peut m'intéresser. En tout cas, leur nouvelle production s'appelle Wrong Generation. Il s'agit d'un gros EP qui arrive aujourd'hui dans les bacs. Alors, Fever, on va dire Fever 333, allez. C'est un groupe qui nous vient de Inglewood, donc ça, ça se trouve dans le comté de Los Angeles. C'est tout récent, hein, puisqu'il a été créé en 2017, ce trio qui est composé de Jason Aylon Butler, qui est au chant et qu'on connaît d'ailleurs en tant que frontman d'un groupe de metalcore qui s'appelle Let Live. Il y a un guitariste qui s'appelle Stephen Harrison, qui joue également dans un groupe de metalcore, mais pas le même puisqu'il s'agit de The Chariot. Et puis, il y a Arik Improsta, qui est batteur, et que l'on retrouve, lui, dans un groupe de post-rock qui s'appelle Night Verses. Donc, étant donné qu'ils font tous déjà partie d'une formation assez solide avec une petite renommée, je pense qu'on peut qualifier Fever 333 de super groupe. Concernant leur style, on est sur un rapcore moderne qui est fortement teinté d'influence metalcore, qui se veut explicitement en faveur d'une cause révolutionnaire, qui est servie avec agressivité à grands coups de punk, de hip-hop, de hardcore et de trash. Si vous voulez, Fever 333, c'est en quelque sorte le chaînon manquant entre Rage Against the Machine et Bring Me the Horizon. Ça donne un résumé assez large certes, mais qui représente quand même assez bien l'ensemble. Donc c'est un groupe qu'on va découvrir avec un EP qui s'appelle Made in America, qui va paraître début 2018, et ce qui va vraiment révéler le groupe, ça va être un remix du titre éponyme, puisque en fait il va être signé par un rappeur assez renommé qui s'appelle Vic Mensa, et par Travis Barker, alors qui lui est très renommé aussi, puisque ça n'est autre que le batteur de Blink 182. Donc quelques mois plus tard, Fever 333, finalement, je vais dire comme ça, va frapper très fort avec un single qui s'appelle Burn It, qui va annoncer la sortie d'un premier album qui s'appelle Strength in Numbers. Alors lui, il va arriver dans les bacs début 2019. Pour le coup, il est produit par Travis Barker et le disque affirme définitivement la ferme intention du trio d'en découdre avec les injustices et les travers de notre société. C'est un disque qui va être encensé par les médias et par le public, et ben auquel il va offrir des prestations incendiaires. Fever 333 s'inscrit avec cet album-là parmi les sensations de l'année 2019. Et en attendant un deuxième album des Californiens, eh bien voici leur nouvel EP qui s'appelle Wrong Generation. Alors cet EP-là, il est né suite à l'affaire George Floyd, qui a été à l'origine de nombreuses manifestations aux États-Unis au printemps dernier. Manifestations auxquelles le chanteur Aylon Butler a pris part durant 13 jours dans sa ville à Los Angeles. Et le 14e jour, eh bien, il est rentré chez lui et il a commencé à écrire les morceaux de ce qu'allait devenir ce nouvel EP qui, encore une fois, transpire la colère, la rébellion et le ras-le-bol du peuple face à des dirigeants sourds, finalement. Butler, il raconte tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a ressenti pendant ces 13 jours de manifestation. Et c'est violent, comme en témoigne notamment le morceau Bite Back, qu'on va écouter dans quelques instants. Alors, on peut noter au passage que si Wrong Generation est présenté comme un format EP, il a quand même 8 titres, donc on frôle le format album. Je pense que c'est à cause du contenu que le disque a été rangé en EP et non pas à cause de la durée. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fever 333 a beaucoup à nous dire et nous sommes tout oui. Voici tout de suite Bite Back sur Back FM. Time to hold the line. They see the weapon in you. No sudden moves.
you do? Our very bodies are shoddies. Wait till we use our minds. Woke up this morning to people mourning. Another brother they murdered just as a warning. That if we speak up about how they treat us, they'll do it over and over until we bite back. That's how we bite back. So let's bite them back. And she has seen it all. That's what Jesus throws. Our features don't look like me at all. I want more pictures away and books that teach history. I wanna be there when the final racist statue falls. Woke up this morning to people mourning. Another system we miss and taxes are soaring. This time we speak up. Make sure they see us. They just gon' be us. Won't be us until we bite back.
Le grondement de toute une foule en colère, Fever 333, avec un extrait de l'EP Wrong Generation. On vient d'écouter le titre Bite Back. Donc EP écrit suite aux émeutes, aux manifestations provoquées par la mort de George Floyd aux États-Unis. Et puis une colère qui s'applique finalement à bien des peuples dans bien des pays. Quand j'avais présenté leur premier album en 2019, j'avais parlé de que ça pouvait très bien accompagner les manifestations des gilets jaunes. Et ben là c'est un peu pareil aussi, voilà, la colère d'un peuple par Fever 333. Très bonne EP que je vous conseille si vous aimez le rapcore et puis si vous n'êtes pas allergique à cette petite teinte metalcore qui modernise un peu le truc. On reste aux États-Unis, mais on va changer d'état, on va quitter la Californie, on va se rendre en Géorgie puisqu'on va y retrouver le groupe Seven Dust qui lui aussi sort aujourd'hui une nouvelle production. Ce n'est pas un EP mais c'est un album, eux qu'ils sortent un album qui s'appelle Blood and Stone. Alors Seven Dust, groupe qui nous vient d'Atlanta, qui a été fondé en 94. Au départ il va être créé par le bassiste Vince Hornsby et le batteur Morgan Rose, et puis le groupe il va être assez vite complété par deux guitaristes, John Connolly et Clint Lovery, ainsi que le chanteur Laron Witherspoon, un line-up qui est toujours d'actualité, il faut le mentionner. Alors Seven Dust, c'est au départ du metal alternatif, ou du new metal comme on disait à l'époque. À ses débuts, le groupe il est un peu dans la même lignée que des Korn, des Deftones. Aujourd'hui, par contre, ça a un peu évolué, ça a même beaucoup évolué, puisque le groupe évolue dans un style qui est plus hard rock, voire post-grunge. Seven Dust, c'est un groupe qui va connaître un succès commercial assez fulgurant, puisque son premier album éponyme qui paraît en 97 va se vendre à 732 000 exemplaires aux États-Unis, où il va être certifié disque d'or, tout comme le seront ses deux successeurs, Home en 99 et Animosity en 2001. qui sont, il me semble, d'ailleurs, les deux albums les plus connus du groupe, du moins ici en France. Une discographie qui s'est depuis largement agrandie, puisqu'elle compte désormais 13 albums studio, dont le dernier en date, bah, jusqu'à aujourd'hui, était All I See Is War. Il était paru en 2018. Je dis était, puisque ça y est, son petit frère Blood and Stone vient d'agrandir la famille aujourd'hui. Un album produit, tout comme son prédécesseur, par Michael Elvis Basket, qu'on connaît notamment pour son travail avec Slash, avec Alter Bridge. Donc voilà, un producteur de renom. Un album qui propose 13 titres, alors qui résume assez bien finalement la carrière de Seven Dust, puisque le groupe nous balade des territoires new metal de leur début jusqu'aux contrées post-grunge dans lesquelles ils évoluent depuis quelques années. Et bah, pour s'en rendre compte de tout ça, il suffit d'écouter Dying to Live, qui ouvre le disque, et The Day I Tried to Live, la reprise de Soundgarden, qui sert de conclusion à Blood and Stone, qu'on avait d'ailleurs écouté il y a quelques semaines dans cette émission, dans la rubrique Sortez Cover. Donc, ce qu'on peut en dire de cet album Blood and Stone, c'est un disque qui manque vraiment pas de sincérité, qui a de quoi réconcilier à la fois les fans d'antan et les fans récents. Par contre, ce qu'on peut peut-être lui reprocher, c'est que l'ensemble manque d'un tout petit peu de prise de risque, d'un tout petit peu d'innovation. On va dire que Blood and Stone, c'est un album qui est tout à fait recommandable, sans être un chef-d'œuvre absolu. Donc, pas de quoi le bouder, hein. Au contraire, surtout si vous avez un jour aimé Seven Dust, faites-vous plaisir et allez l'écouter. En voici d'ailleurs un extrait avec le morceau Dying to Live, qui ouvre le disque en mode new metal à l'ancienne. Voici tout de suite Seven Dust. Dying to Live, un extrait donc de Blood and Stone, c'était Seven Dust à l'instant dans l'émission Check Me Load, votre émission métal. Blood and Stone, nouvel album du groupe qui paraît aujourd'hui et qui vous permet de faire un petit voyage entre le new metal d'antan et le post-grunge de maintenant. Je vous conseille d'ailleurs tout à fait chaudement la reprise de Soundgarden qu'on avait écouté il y a quelques semaines qui s'appelle The Day I Tried to Live, qui est vraiment très réussie. On va changer d'ambiance, de style, on va aller dans un univers très automnal, puisqu'on va s'intéresser à un groupe de Doom. Maintenant, en ce moment, je trouve que la scène Doom est très en poupe, je pense que c'est peut-être la saison d'automne, et puis peut-être aussi la situation actuelle qui fait qu'on est d'humeur un peu plus mélancolique. En tout cas, ce groupe, c'est Palbearer, et son nouvel album paraît aujourd'hui, ça s'appelle Forgotten Days. J'ai hésité un moment parce que je me souvenais plus si c'était un album, enfin si on pouvait le considérer comme un album ou comme un EP. Le truc avec Palbearer, c'est que sur ses productions, il y a toujours finalement très peu de titres, mais comme il y a des titres assez longs, voilà pourquoi on les rentre plutôt en format album. Et puis de toute façon, ça a peu d'importance. Voilà, donc en tout cas ça s'appelle Forgotten Days et c'est dans les bacs aujourd'hui. Alors Palbearer, c'est un groupe qui nous vient d'Arkansas, qui vient de Little Rock. Je crois qu'il y a plein de villes qui s'appellent Little Rock aux États-Unis parce que il me semble savoir que c'est un nom de ville assez connu là-bas. C'est un groupe qui existe depuis 2008 et depuis ses débuts, le combo se compose du chanteur-guitariste Brett Campbell, du guitariste Devin Holt, du bassiste Joseph Roland. Par contre, pour ce qui est de la place du batteur, là c'est un peu plus problématique, puisque en tout elle a été occupée par 5 musiciens et quand même ça s'est un peu calmé puisque depuis 2012 c'est Mark Liorley qui occupe le poste. Donc on est sur du doom metal et si Palbearer est aujourd'hui considéré comme une valeur montante voire le plus prometteur des groupes qui constituent la scène doom moderne, il aura pas fallu longtemps pour acquérir ce statut puisqu'en tout il avait sorti jusqu'à présent 3 albums pour montrer cet énorme potentiel. Alors il y avait tout d'abord eu Sorrow and Extinction en 2012, il y avait ensuite eu Foundations of Burden en 2014 et puis Earthless en 2017. Une troisième production qui montrait d'ailleurs la facilité et l'intelligence avec laquelle le groupe maniait influence prog, psyché, voire indie, sans pour autant renier ce qui a fait l'essence et ce qui constitue les bases du doom tel que les construisim, Cathedral ou Paradise Lost il y a une trentaine d'années. Donc de larges espoirs que Palbearer se devait de concrétiser avec ce 4e album qui est Forgotten Days, qui mettons tout de suite fin au suspense, est un véritable chef-d'œuvre qui utilise en fait l'ensemble de l'héritage de la scène doom, donc de ses prémices avec le fantôme de Black Sabbath qui plane au début du disque, jusqu'à Mastodonte qui en est son incarnation moderne, pour en proposer de cet héritage une évolution qui se veut aussi riche que solide, aussi lourde qu'aérienne et aussi sombre que lumineuse. Avec Forgotten Days, Palbearer, nous envoûte sans jamais nous perdre. Et ça, c'est pas toujours évident quand il s'agit de Doom, puisque souvent les chemins sont tortueux et ça peut arriver que les groupes nous perdent en route. Là, c'est pas le cas. Sa lecture du Doom, elle est claire, accrocheuse, à la fois forte et mélancolique. C'est du Doom épique de haute volée qui fera sûrement date dans l'histoire d'un genre qui parfois peine à se réinventer, il faut le dire. On écoute tout de suite Palbearer avec le morceau The Quicksand of Extincting. C'est donc un extrait de cet album qui s'appelle Forgotten Days.
I'm
Et ouais, ça finit un petit peu brutalement ce morceau de Pal Bearer. C'est un extrait de l'album Forgotten Days. Et le morceau qu'on vient d'écouter, c'est The Quicksand of Exciting. Donc, of Existing, même d'ailleurs, je prononce n'importe comment, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Ça sent les vacances, moi je vous le dis. En tout cas, gros coup de cœur pour ce groupe de Doom qui nous vient de l'Arkansas et qui est vraiment excellentissime, qui manie tellement bien toutes ses influences pour en ressortir un Doom à la fois authentique et à la fois qui évolue, et ça c'est plutôt cool, donc à rajouter à votre playlist. Et d'ailleurs, si vous aimez Typo Négative, le groupe avait sorti un EP il y a quelques années, c'était peut-être bien en 2017 si je dis pas de bêtises, où il faisait une très belle reprise de Love You to Death de Typo Négative, groupe que j'adore, alors qui est pas vraiment un groupe de doom, qui est plutôt un groupe de heavy metal gothique avec un côté doomesque quand même, vous allez me dire, mais il avait une voix tellement magnifique, le chanteur, que bah voilà, ça m'a fait plaisir d'entendre une belle reprise de Pal Bearer. On continue maintenant, mais on va quitter les États-Unis pour aller du côté de la Scandinavie. On va s'intéresser à un groupe de death metal mélodique. Aujourd'hui sort le nouvel album de Morse Principium Est. J'ai oublié de préciser que vous étiez toujours sur Back FM, toujours dans l'émission de Check Milode. Donc Morse Principium Est qui sort aujourd'hui l'album Seven. Alors qui est ce groupe ? C'est un groupe qui nous vient de Finlande, d'une ville qui s'appelle Pori. Je ne connais pas. Peut-être êtes-vous déjà allé vous en Finlande. Groupe créé en 99 sous l'impulsion du guitariste Jarkko Kokko, qui va vite être rejoint par Ville Viljanen, qui est encore le frontman à ce jour. Alors, on est sur un death metal mélodique dans la droite lignée de la scène mélodeath scandinave qui a émergé au milieu des années 90. Le groupe, dont le nom est une formule latine qui se traduit par « la mort n'est que le commencement », va d'abord sortir deux démos, mais ces démos elles vont attirer l'attention du label français Listenable Records, sur lequel va donc sortir l'album Inhumanity en 2003. Suivront ensuite les albums The Unborn en 2005 et Liberation Equal Termination en 2007, mais le combo va être fragilisé par ses nombreux changements de line-up et va décider de se mettre en pause, un hiatus qui prendra fin en 2012 avec la sortie de And Death Said Live, qui apporte son lot d'évolutions qui se traduisent notamment par des compos plus modernes, des orchestrations plus intenses. Morse Principium Est enfoncera ensuite le clou avec le très réussi Dawn of the Fifth Era en 2015, qui sera suivi du solide Embers of Dying World en 2017. Une solidité qui ne faillit pas, hein, loin de là, sur Seven, qui, vous l'aurez compris, est le septième opus du combo. Combo qui s'impose définitivement parmi les formations les plus brillantes de la scène mélodeath scandinave actuelle. Morse Principium Est maîtrise son sujet de bout en bout, des envolées épiques aux riffs incisifs en passant par des moments plus mélodiques. Le dosage est toujours juste, les orchestrations et divers arrangements sont bien présents, mais jamais au détriment de la guitare qui, elle aussi, tient un rôle prépondérant, avec notamment des harmoniques qui sont vraiment sublimes, comme on en trouve par exemple chez des groupes comme Children of Bodom ou In Flames. Seven, c'est un album intense, puissant, majestueux, un septième joyau sur la couronne de Morse Principium Est, et puis un disque à côté duquel il faudra pas passer si vous aimez le death mélodique. On écoute tout de suite un extrait de Seven avec le morceau A Day for Redemption. Voici tout de suite Morse Principium Est sur Back FM. We'll be right back. Le vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Vous écoutez l'émission Check Me Load et à l'instant, c'était Mors Principium Est avec le titre A Day for Redemption, extrait du nouvel album qui s'intitule Seven et qui est sorti dans les bacs ce 23 octobre. Donc, un album que vous pouvez vous procurer immédiatement. Toujours en ce vendredi 23 octobre, décidément que de sorties et encore, hein, j'ai pas tout mis au programme parce qu'il y en avait encore plus. Un petit live pour changer un peu, le live de Hammerfall qui arrive aujourd'hui, qui s'appelle Live Against the World. Alors Hammerfall, là on était en Finlande, on va pas très loin puisqu'on va en Suède, puisque le groupe va naître à Göteborg en 93. Il est né en fait de l'association de deux guitaristes, Oscar Droniak et Jesper Stromblad. In Flames, justement, In Flames, on les évoquait il y a quelques instants pour parler du style de Mors Principium Est. Alors, à l'époque, tous les deux, ils étaient membres du groupe Ceremonial Oath, et donc ils vont fonder Hammerfall un peu comme un side project, mais ce qui est au départ un projet parallèle devient assez vite un groupe à part entière, notamment avec l'arrivée en 96 du chanteur Joachim Kanz. Alors, c'est vrai que Göteborg, c'est qui est la ville qui a vu naître le groupe, c'est plutôt une ville qui est célèbre pour sa scène extrême, et pourtant, Hammerfall est bel et bien une formation de heavy metal, et plus précisément de power metal. Ils vont sortir en 97 un premier album qui s'appelle Glory to the Brave, qui va connaître un beau succès en Allemagne, en Autriche, au Japon, aux États-Unis, et avec Legacy of Kings qui va arriver l'année suivante, et bien la carrière d'Hammerfall va prendre cette fois une dimension international et installer d'emblée les Suédois parmi les groupes de power du moment à suivre absolument. Ils vont ensuite enchaîner avec plusieurs opus qui feront le bonheur des amateurs de heavy metal, comme par exemple Crimson Thunder en 2002, Chapter 5 en 2005, avant de faire évoluer leur style vers un son plus moderne, avec un tempo ralenti, une ambiance générale plus sombre, comme en témoigne par exemple Infected en 2011. Alors là, l'accueil va être relativement mitigé, et du coup, Hammerfall va revenir aux fondamentaux avec Revolution en 2014, un album de heavy metal traditionnel, peuplé de braves guerriers, de chants de bataille, et c'est dans cette droite lignée que s'inscriront ensuite des albums comme Built to Last en 2016 et Dominion en 2019, qui sont tous les deux forgés dans le métal et l'acier. Dominion qui avait d'ailleurs été suivi d'une tournée magistrale dont la production impressionnante avait conquis le monde, et que le combo a tout naturellement choisi d'immortaliser avec ce Live Against the World qui paraît aujourd'hui en version audio et en version vidéo. Alors c'est le 15 février dernier qui a été enregistré Live Against the World à la MHP Arena de Ludwigsburg en Allemagne. C'est un album ou un DVD suivant le format que vous choisissez, qui se compose d'une vingtaine de titres, parmi lesquels pas mal d'extraits du dernier album, mais pas que, puisqu'on trouve également un certain nombre de classiques d'Hammerfall, et puis aussi une petite sélection de chansons que le groupe joue plus rarement en live, donc ça devrait pas mal ravir les fans, je pense. On écoute tout de suite un extrait de Live Against the World, avec le morceau Never Forgive, Never Forget, qui ouvre le concert et qui à l'origine est présent sur leur dernier album en date, Dominion. Voici Hammerfall.
Thank you.
Hammerfall avec le titre Never Forgive, Never Forget en live, puisqu'il s'agit d'un extrait du Live Against the World qui paraît aujourd'hui, donc en format audio, format vidéo. Voilà, vous prenez ce qui vous fait envie, vous pouvez prendre les deux si jamais ça vous chante, si vous aimez le heavy metal. Ceci est fait pour vous. Hammerfall, groupe suédois, donc qui avait sorti un excellent album en 2019, album qui s'appelle Dominion. Allez, on s'arrête là pour cette sélection de nouveautés dans Check Meload, nouveautés parues toutes ce 23 octobre. J'espère que vous avez trouvé de quoi compléter un petit peu vos playlists. Et bah oui, il est malheureusement temps de se dire au revoir. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est aussi l'heure de la rubrique Sortez Cover, puisque comme chaque semaine, on va conclure l'émission sur un air de reprise. Alors, la sortie qui aura été le gros événement de ce mois d'octobre 2020, c'est le nouvel album de Blue Oyster Cult, qui avait plus rien sorti depuis presque 20 ans, un album qui s'intitule The Symbol Remains. Romance que j'ai présenté dans cette émission, qui est d'ailleurs plutôt sympa, hein, il faut l'avouer. Album qui aura sans doute donné envie à pas mal de gens d'aller réécouter les grands classiques de Blue Oyster Cult. Et son morceau le plus culte de tous, c'est bien entendu Don't Fear the Reaper, qui en plus est parfait bah, si vous avez envie de vous constituer une petite playlist spéciale Halloween. Don't Fear the Reaper, d'ailleurs, qu'on va redécouvrir aujourd'hui dans une version bien différente de celle de Blue Oyster Cult, puisque c'est une version métal gothique que je vais vous présenter, qui est signée du groupe finlandais Im. C'est paru sur leur premier album, qui s'appelle Greatest Love Song Volume 666. C'est un album qui date un peu, puisqu'il est arrivé dans les bacs en 97. Donc rendez-vous compte, ça fait maintenant plus de 20 ans. Alors avant d'en dire quelques mots sur cette reprise de Im, on va revenir quelques instants sur la version originale de la chanson Don't Fear the Reaper, celle de Blue Oyster Cult. Donc elle paraît pour la première fois le 21 mai 1976 sur l'album Agents of Fortune, qui est l'album vraiment qui a vraiment révélé, on va dire, le groupe Blue Oyster Cult, même s'ils avaient fait quelques trucs plutôt pas mal avant. Ça va être voilà, l'album de la consécration, on va dire. Donc voilà, il apparaît en track listing sur cet album-là. Et puis, quelques semaines plus tard, la chanson Don't Fear the Reaper, elle apparaît aussi en version 45 tours. Il s'agit de la chanson qui va propulser Blue Oyster Cult au sommet des charts en Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Avec Don't Fear the Reaper et son intro de guitare qui est reconnaissable dès les premières notes, le groupe va entrer définitivement dans la légende du rock et il va signer une chanson qui fait aujourd'hui partie, ben, j'ai envie de dire, de la pop culture, puisque elle va être utilisée notamment plusieurs fois au cinéma. Et sa première apparition, c'est finalement peu de temps après sa sortie, puisque on va l'entendre dans Halloween, le slasher culte de John Carpenter, qui est sorti en 78, 2 ans après Don't Fear the Reaper. Et puis après, 18 ans plus tard, on va l'entendre de nouveau dans un film du même genre, dans un film de slasher, puisqu'on va l'entendre dans le non moins culte Scream de Wes Craven. Alors Scream, c'est un hommage finalement au slasher des années 70 et 80, et puis, sans le vouloir, ils vont quand même marquer le renouveau du genre. C'est pour ça que Scream va devenir ce film culte. Et là, il y a des spécialistes du cinéma d'horreur qui vont m'arrêter et qui vont me dire que, attention, hein, la version qu'on entend de Don't Fear the Reaper dans Scream, c'est pas celle de Blue Oyster Cult, mais d'une revisite qui est signée Gus Black. Et puisque on parle épouvante et pop culture, on peut signaler aussi que l'écrivain Stephen King, qu'on surnomme le maître de l'horreur, a cité la chanson Don't Fear the Reaper comme source d'inspiration pour son roman Le Fléau, qui, tout comme Halloween, est sorti en 78. Alors d'ailleurs, Le Fléau, c'est un livre dont le thème n'a jamais été autant d'actualité, puisqu'il est question d'une pandémie. Et Le Fléau, il a été adapté une première fois en format mini-série en 94. Et dans cette mini-série, en générique, on entend la chanson Don't Fear the Reaper. D'ailleurs, j'en profite pour signaler vite fait entre deux qu'il y a une nouvelle adaptation du roman qui va sortir toujours sous la forme d'une mini-série le 17 décembre prochain. Mais revenons à la chanson Don't Fear the Reaper. Alors j'évoquais tout à l'heure la version de Gus Black, qui est loin d'être le seul à l'avoir revisité, ce classique du rock, hein, la liste est très très longue et variée. Donc moi j'ai choisi cette revisite gothique qui est portée par la voix suave et profonde de Ville et Valo, charismatique frontman du groupe Im. C'est eux que j'ai choisi de mettre à l'honneur. Ville et Valo qui est ici accompagnée par l'actrice chanteuse Sana June Hyde, qui était à l'époque sa compagne. Alors c'est, je l'ai dit tout à l'heure, mais cette revisite de Don't Fear the Reaper, elle est extraite du premier album de Im, Greatest Love Song Volume 666. Et en fait, cette revisite de Don't Fear the Reaper, elle prend ici des allures de romance gothique, presque burtonienne, un son qui s'y est de façon parfaite aux couleurs automnales du moment. Voici donc Don't Fear the Reaper de Blue Oyster Cult, revu et corrigé par le groupe Im. Quant à nous, bah, comme vous pouvez l'entendre, moi j'ai besoin de vacances, donc on va se retrouver début novembre maintenant. Même jour, même heure, même station. En attendant, stay metal, stay rock'n'roll et surtout, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Salut à tous !